France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Radio-Canada.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Présente.
La folie des années 80.
On est dans la merde en France. On est dans la merde.
C'est cela, oui.
25 millions de rubis cubes vendus.
I said I want to fuck her.
Oh, maman.
36-15 infogrammes, des milliers de pins à gagner.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Une série réalisée par Cécile Posse et Marion Guimette.
Année 1986.
L'accident de la centrale de Tchernobyl s'est produit vraisemblablement en samedi après-midi. Les victimes seraient nombreuses.
Depuis le temps qu'on en parle, on commence à voir le bout du tunnel. C'est ce matin que François Mitterrand et Margaret Thatcher annonceront à Lille le choix de la liaison qui reliera la France à l'Angleterre.
Nous commençons par le drame du rallye Paris-Dakar et par cet accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 5 personnes. 5 personnes, il ne faut pas les oublier, dont l'organisateur Thierry Sabine et le chanteur Daniel Balavoine.
L'Argentine a donc remporté ce soir la 13e Coupe du Monde de football. Les Argentins qui ont battu les Allemands de l'Ouest 3-2.
4, 3, 2, 1.
Au sommaire ce soir, le drame de la navette spatiale Challenger explose au décollage. Les 7 astronautes sont morts en direct devant les caméras de la télévision américaine. La NASA confirme en ce moment même qu'il n'y a aucun survivant.
Thierry Leluron se trouvait depuis 15 jours dans une chambre aménagée avec tente à oxygène. Cette nuit, il étouffe. À 7h ce matin, il n'y a plus rien à faire. Thierry Leluron est mort. Il avait 34 ans.
Non, Coluche n'aimait pas la bagnole, il préférait la moto. Cher au cœur des Français, l'amuseur public vient de nous raconter sa dernière histoire, une histoire plutôt triste, celle d'un dingue de moto qui a rencontré cet après-midi la mort au tournant sur une route près de Grasse.
Putain, c'est trop con, ce putain de camion, mais qu'est-ce qu'il foutait là ?
Coluche et Thierry Leluron sont deux figures emblématiques de l'humour dans les années 80. L'un est un imitateur parfait, l'autre excelle dans l'art de l'humour politique, et tous les deux sont des provocateurs. Thierry Leluron et Coluche s'entendaient très bien, et un an avant leur mort, ils se sont unis lors d'un mariage très médiatisé. C'était le 25 septembre 1985.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est dans l'actualité de ce mercredi ce que certains d'entre vous ne considéreront pas comme un événement majeur, mais comme un clin d'œil dont le seul objectif est de nous faire sourire. Je veux bien sûr parler de cette drôle d'union, à vous de juger, qui a été célébrée ce matin à 11h, le mariage de Coluche et de Thierry Leluron.
Coluche est travesti en marié, Leluron, en haute forme, joue le rôle de l'époux et le faux couple défile en calèche dans les rues de Paris. Mais avant de défendre l'homosexualité, les deux humoristes parodient le mariage très médiatisé d'Yves Mourousi et de Véronique d'Alençon qui doit avoir lieu le 28 septembre 1985, énorme mariage avec tout le gratin parisien. Ce mariage leur semble faux, car Yves Mourousi fréquente assidûment les barguets de la capitale. Et si Coluche se contente d'envoyer des baisers à la foule, Thierry Leluron, lui, n'hésite pas à attaquer plus ouvertement le mariage d'Yves Mourousi.
Le mariage avec Leluron,
Marius Colucci, l'un des fils de Coluche.
D'abord, ils étaient très copains, Leluron et Coluche, je pense qu'ils ont médité ça ensemble. Et c'est vrai que juste avant, il y avait eu le mariage de Mourousi avec sa femme Véronique, qui avait beaucoup amusé les gens. Et du coup, ils ont voulu faire une parodie de ça. Après, ça, c'est le principe même de l'humour. L'humour, c'est une espèce de truc qui est entre ce qu'on pourrait accepter et ce qu'on acceptera plus tard, peut-être. Et voilà, eux, ils ont décidé de faire rire avec un mariage homosexuel. Justement, c'est aussi pour faire réagir. Agir un peu pour réveiller les consciences, pour parler de ça, quoi. Mais encore une fois, ça, c'est un truc que l'humour fait naturellement, en fait. Ce qui est drôle, c'est justement ce qui va réveiller un peu les consciences.
En politique, on est hachement baise. Ah, tu conneries. Surtout en politique française. On est parmi les plus balèzes du monde. En politique française. Du monde. Faut dire aussi qu'on est pratiquement les seuls que ça intéresse, alors évidemment. Ça sélectionne. Là, on est balèze. On a des hommes politiques que le monde entier nous envie. Ils pourraient venir les chercher d'ailleurs, mais ils viennent pas alors.
Les politiques sont dans la ligne de tir de Coluche. On pourrait même considérer qu'il a lancé l'humour politique. Et il le fait en modifiant également la forme.
D'une certaine manière, on va dire qu'il est arrivé en France à un moment où la France était prête à avoir effectivement cet humour politique, parce que c'est vrai que à travers tout ce qu'il a fait, surtout il a plutôt commencé avec des sketchs, mais qui déjà avaient un gros fond social. Ensuite, à cette époque-là, on en trouve déjà. Hein. Je suis fan, bah d'ailleurs comme il l'était, de Francis Blanche ou Fernand Reynaud ou L'Amoureux. Il y avait déjà un fond social. Je me rappelle du sketch de Fernand Reynaud où il fait crier au public « bourreau d'enfants » parce qu'il raconte l'histoire d'un couple qui frappe sur son gamin. Voilà, il y avait déjà une raison sociale. Et même encore un sketch de Fernand Reynaud où il parle du boulanger arabe qui est venu s'installer dans un village et où ils aiment pas les étrangers. Ils viennent manger le pain des Français. Alors, ils le virent, et puis depuis qu'il est plus là, ben ils ont plus de pain parce que c'était le boulanger. Donc il y avait déjà des sketchs un peu comme ça. Après, lui, ce qui l'a amené, hein, qui était très nouveau en France, c'était le stand-up, ce qu'on appelle aujourd'hui le stand-up, qui était cette façon de s'exprimer directement en parlant au public, et plus à travers un rôle. Et ça, c'est vrai que c'est un des premiers à l'avoir... Alors, je dis entre guillemets, c'est un des premiers à l'avoir fait en France, parce qu'en fait, ça aussi, c'est une tradition qui existait dans le music-hall. Et tous les Bourvilles, les Gabins, les Fernandels, ils faisaient ça. Ils chantaient une chanson, et entre les chansons, ben, ils sortaient des blagues, ils faisaient du stand-up, finalement. Et Coluche, lui, juste, il a décidé de faire un spectacle comme ça, mais sans les chansons, quoi. Et de faire que ça, que s'adresser directement au public... Et c'est vrai que cette forme-là permettait d'avoir un meilleur rythme comique tout en parlant de politique et de pouvoir parler de plein de sujets de politique. Et cette forme-là, notamment, ça permet de faire de la vulgarisation. Ça permet pas juste d'illustrer un problème dont on parle à travers un personnage et une situation, mais tout à coup de l'expliquer aux gens parce qu'on s'adresse vraiment à eux. C'est ça, je pense, vraiment la nouveauté qu'a amené Coluche. Qui est un truc qui venait un peu des États-Unis, hein. Lenny Bruce, par exemple, c'est exactement ça qu'il faisait dans les années 70 à New York. Alors, de là à dire que Coluche était fan de Lenny Bruce, pas du tout, parce que Coluche, il parlait absolument pas anglais. Il parlait moins bien anglais que son copain Renaud. Et vous avez qu'à écouter les chansons en anglais de Renaud, vous comprendrez. Par contre, il s'intéressait beaucoup à tous les médias, et je pense que aussi, lui, il a commencé au Café Théâtre, où vraiment, il sortait des blagues entre les morceaux qui passaient dans le café où il bossait. C'est là qu'il a rencontré Georges Moustaki et Romain Bouteille, qui étaient ses grands copains de l'époque. Avec Rufus aussi, mon frère s'appelle Romain Rufus Joseph, justement pour les trois. Et quand il était dans ce bar-là, il faisait déjà justement des blagues. Il faisait pas des sketchs, il faisait des blagues, il faisait pas des personnages. Et je pense que, bah voilà, à force de s'entraîner à faire ça, il a eu l'idée de faire un spectacle qui soit plus des blagues que des sketchs. Et c'est comme ça qu'est née un peu cette patte qui marchait très bien, encore une fois, avec la politique, parce que ça permettait de l'expliquer.
J'aime ça, j'aime bien le spectacle. Et il y a qu'au music hall qu'on fait encore du spectacle, parce qu'au théâtre, on en fait très très peu, hein. J'aime bien le music hall parce que le music hall, c'est vrai. Il y a un mec qui arrive, il fait la deuxième partie tout seul. Bon, le public est venu pour le voir. Il ne doit pas décevoir. Il a un combat à livrer. Il va le livrer tout seul. Et c'est vrai. Il est là. Voilà. Bouteille, quand un comédien rate une réplique en scène, il dit « Eh ben, t'as de la chance de ne pas être funambule parce que tu serais mort. » Voilà, c'est ça. Si un funambule au cirque rate un pas, il tombe par terre. Si un comédien rate une réplique dans la pièce s'en sort. Ça prouve que la pièce est imparfaite.
Si les blagues de Coluche, elles marchent encore très bien aujourd'hui, d'ailleurs on en voit partout sur les réseaux sociaux, alors notamment des fois il y a des trucs qui sont pas de lui mais qui sont drôles, qui lui sont attribués, et souvent quand c'est pas lui c'est Churchill, et à l'inverse il y a des trucs qui sont drôles qu'il a dit, qui sont attribués à d'autres, notamment certaines citations de Churchill qui en fait sont du Coluche, donc bon bah ça c'est le jeu des réseaux sociaux, hein. Ça c'est toujours c'est le problème du 21e siècle, on va le résoudre d'une manière ou d'une autre. Mais oui, en fait, les blagues de Coluche, elles marchent bien encore aujourd'hui. D'abord parce qu'elles sont drôles. Hein. En tout cas, moi, je les trouve drôles. Elles sont assez pertinentes. Il y a quand même des trucs qu'il avait compris et qui nous a expliqué, qui étaient vraiment très justes. Et puis l'humour, c'est formidable pour ça, parce que une fois qu'on a vraiment bien saisi une idée pour pouvoir en faire une blague, c'est qu'elle est limpide, cette idée, n'importe qui pourra la comprendre, même un enfant de 7 ans, et ça c'était quand même la grande force de Coluche, et encore une fois la force de l'humour en général. Et puis, bah aussi, il y a que, mine de rien, hein, bah les êtres humains, on n'évolue pas énormément, et la société, elle évolue pas forcément beaucoup non plus, et que finalement, bah, y a beaucoup de choses qui arrivaient dans les années 70 dans la société et notamment en politique bah, qui sont encore d'une actualité folle parce qu'on a exactement les mêmes. Et puis les êtres humains aussi, hein, les Français, ils ont pas tellement changé non plus. On évolue petit à petit, mais c'est pas bien rapide. Hein. Comme disait Coluche justement, si le théâtre pouvait changer les gens, Molière l'aurait fait depuis des siècles.
Si à tout le monde gueule, on dit... Ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
L'esprit de Coluche, c'est d'abord une grande générosité, une énorme soif de vivre, parce que c'est quand même un type qui avait eu une enfance assez sordide, hein, entre la misère, sa mère qui était malade, sa grande sœur qui l'élevait, les petits boulots. C'était pas très très drôle, hein, pour un petit immigré italien dans les années 60. Donc voilà, une force de vivre, une envie de dévorer la vie, un enthousiasme, une générosité. Et puis, effectivement, ce bon sens populaire qui est poussé tellement loin qu'il en devient limpide et confondant. Et où tout à coup, l'humour vient casser absolument toutes les barrières. Parce que une fois qu'on arrive à rire de quelque chose, on peut plus jamais faire la connerie qui était cachée derrière la blague, quoi. Une fois qu'on en a rigolé, psychologiquement, on est débarrassé du problème. D'ailleurs, quand on a eu un problème dans la vie et qu'on arrive à en rire, c'est que... On arrive à se détacher de ce problème-là et je pense que ça fait un peu partie de la philosophie de Coluche, c'est se dépêcher de rire des choses pour être sûr de pas en souffrir, d'une certaine manière.
Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour seulement, le reste du temps il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo. Il bossait, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Mais c'est fini, il n'y a plus de boulot. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Allez, hop.
Thierry Leluron tire aussi sur les hommes politiques et sur la politique en général. Rappelez-vous ce sketch où il parodiait Giscard d'Estaing avec son comparse Pierre Desproges. C'était en 1978.
Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici au coin de la bûche pour un entretien exceptionnel avec Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, président... Allez, je vais vous dire de quoi il est président, parce que je ne sais pas très... président de la République. Malheureusement, il me semble que Giscard est à la bourre. Non, j'entends son pas. C'est lui. Bonsoir, mon président.
Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes vœux pour 1977.
18.
Ah bon?
Ah oui.
Tout augmente. Mon cher Morosi...
Excusez-moi, mon caporal-chef, mais je ne m'appelle pas Morosi, je suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes, mon aïeul Germaine...
On ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales.
En 1985, Thierry Leluron imite François Mitterrand.
Je retrouve essentiellement Mermaz et Poprenne.
Oui.
Poprenne et Mermaz, bien sûr. Et tous les autres, tous les Poprenne, tous les Mermaz. Et ensemble, nous évoquons les points positifs acquis par la gauche depuis 4 ans. Car gauche nous sommes, et gauche nous resterons.
Un an plus tôt, en 1984, il détourne les paroles d'une chanson de Gilbert Bécaud. Alors que Bécaud chantait « L'important, c'est la rose », Thierry Leluron entonne « L'emmerdant, c'est la rose », la rose étant le symbole du socialisme. Plus encore, il arrive à faire chanter tout le public.
Évidemment, c'est bientôt la banqueroute, car c'est déjà la déroute en chantant. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant.
c'est quoi?
C'est la rose.
L'emmerdant chante.
C'est la rose.
Ça détend.
D'autres personnalités sont les cibles de Thierry Leluron. Lynn Renault, Zizi Jeanmaire, Alice Sapritch. Thierry Leluron qui a le même producteur que Coluche. Son nom, c'est Paul Lederman et c'est lui qui va produire Les Inconnus.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, mon nom,
les Inconnus se sont connus dans les années 80.
Pascal Légitimus, humoriste et comédien.
Didier Bourdon était au conservatoire, moi j'étais en fac et Bernard Campan était au cours Simon. Ensuite, il me semble que j'ai joué, oui, je le certifie, avec Didier Bourdon au Café Théâtre, au Tintamarre, une pièce de Pierre Dac qui s'intitulait « Phèdre à repasser », donc de Pierre Dac. Donc j'ai eu l'occasion de jouer avec Didier Bourdon pendant 5 mois à peu près, et Didier Bourdon a joué avec Bernard Campan dans un autre Café Théâtre qui s'intitulait « Les 400 coups », me semble-t-il. Voilà, donc on a coagulé nos énergies dans ces années-là. Ensuite, on s'est retrouvés tous les trois au Théâtre de Bouvard dans les années en 82. Moi, je suis rentré le premier en septembre 82 et Bourdon et Campan m'ont rejoint en janvier 83. Je pense qu'on tapait surtout, sauf sur la maladie, me semble-t-il, et l'armée et la religion. C'était les trois thèmes majeurs qu'on se permettait de mettre de côté, sur le côté de la route. Sinon, en fait, au départ, l'humour, c'est quoi? C'est de se moquer d'abord de soi-même, je pense. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est vrai que Smaïn, qui était donc d'origine algérienne et moi, d'origine arménienne et antillaise, on se moquait de nous-mêmes. Donc on interprétait des personnages caricaturaux ou réalistes, en ce qui me concerne, soit africains. Parfois, je m'amusais à imiter les Arabes avec l'accent, parce que j'ai une couleur entre deux chaises, donc je pouvais me permettre d'avoir une panel un peu plus large d'imitation, en tout cas d'incarnation. Et puis, je vois que Mimi Mati, qui est donc verticalement concentré, pouvait y aller franchement avec sa petite taille. Michel Bernier, qui était un peu plus enrobé à l'époque, se moquait aussi parce que le fait qu'elle était assez grande. Il y avait aussi un Chinois, un Asiatique, qui s'appelait Chi, donc il se moquait aussi de lui-même. J'ai même une blague qui nous est marrée, il disait « Éteignez les lumières jaunes, sinon ça m'annule ». Bon, voilà. Ensuite, il y avait l'Aspalais et Chevalier, qui se moquait aussi de cet aspect un peu naftalien, c'est-à-dire la naphtaline pour faire un néologisme, parce que déjà l'Aspalès avait ce côté un peu désuet et bourgeois, et qui se moquait aussi un peu des beaufs. Non, je pense que l'avantage du théâtre de Bouvard, c'est qu'il y avait une panel de physique, et c'est là où Bouvard a eu cette intelligence de réunir des gens de talent, certes, mais des gens qui avaient des physiques assez particuliers et différents. Donc on pouvait taper sur tout.
La police d'aujourd'hui présente un nouveau visage. Une équipe des Fers 3 Île-de-France a suivi 24 heures de la vie d'un commissariat de quartier. 9h16, premier appel.
Oui, allô, bonjour madame. Oui, tentative de viol. D'accord, trouvez tous les subterfuges adéquats. Nous arrivons immédiatement, madame.
Une heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat, à moins que le mari ne retire sa plainte.
Vous êtes fier de votre métier ?
Oui, effectivement, à fortiori, on peut dire que c'est, disons que c'est un métier où, effectivement, on a des possibilités, et que je pense que c'est un métier, quoi. Enfin,
non, je crois qu'à fortiori, on est du même avis que Jean-Pierre.
Je ne peux pas dire qu'il y a eu de la méchanceté. Je pense qu'il y en avait, mais elle était plutôt bien prise. Enfin, quand on dit méchanceté, c'est d'appuyer là où ça fait mal. Mais en même temps, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le mal est dans l'œil de celui qui regarde. Si on analyse cette phrase, ça veut dire que celui qui est donc concerné, qui se sent attaqué, c'est que lui-même a un problème qui n'est pas réglé. Donc le fait de créer l'effet miroir, de le représenter dans ce qu'il a de plus négatif, ça peut le toucher, ça peut toucher les gens. Si on attaque un homosexuel, effectivement, si quelqu'un ne se sent pas à l'aise dans son homosexualité, ça peut le perturber. Nous les inconnus, quand on a attaquer, si je puis dire, je dis pas attaquer, enfin c'est pas le bon verbe, quand on a imité, parodié même les chasseurs, on parodiait les mauvais chasseurs. Mais on sait qu'il y a des bons chasseurs. Donc dans toutes les professions, ceux qu'on parodie le plus, ce sont les mauvaises personnes.
Voilà. Donc le but, c'est, peut-être, c'est de rééquilibrer, de réharmoniser tout ça, et d'appuyer là où ça fait mal, parce qu'on ne fait pas rire avec du bonheur, bien sûr.
Il y a le mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un mec qui voit un truc, il tire.
Voilà.
Ça, c'est sûr. Alors là, on la reconnaît à la ronde.
Il loupe pas, là.
Et le bon chasseur, il voit un truc, il tire.
Il tire, mais bon.
Mais bon, c'est un bon chasseur, quoi. Je veux dire, c'est pour...
De toute façon,
ça, c'est les questions à la con.
Faut leur expliquer aux gens, parce qu'ils savent pas faire la différence.
Tiens, celle-là. Putain, j'ai plus de bol, merde.
L'humour suit un peu les événements, l'actualité, donc c'est la forme qui bouge, mais le fond c'est toujours le même.
Pascal Légitimus.
On imite qui, on parodie qui ? Les êtres humains. Comme nous sommes trois, tout est théâtralisé. Donc les gens sont témoins de scènes de la vie. Donc il y a une interaction entre nous, on ne s'adresse pas au public. Le public est témoin de ce que nous vivons. Et on retranscrit avec l'aspect un peu clownesque, un peu exagéré, mais on prend une forme, une profession, et dedans, on y injecte des sujets de société. Par exemple, si vous prenez les branleurs, ces trois mecs à l'accent du midi, du sud-est, voilà, qui sont à la terrasse du café, et puis qui, comme on dit chez nous, qu'on branle pas une. Voilà. Et d'ailleurs, Bernard Campan dit toutes les deux minutes, bon, il faut que j'y aille, j'ai du boulot. Bon, j'ai rendez-vous pour du boulot. Et finalement, il n'y va pas. Ben, en fait, la forme, c'est quoi? C'est trois mecs qui se font chier, disons-le, mais la conversation, quand même, faussement philosophique, caricature un peu les sujets de société, notamment à un moment donné, je parle de l'abbé Pierre, Didier Bourdon parle de cinéma. Voilà, donc on a un cadre et dedans on y injecte un sujet fort. Donc ça, je pense qu'on pourrait rire aujourd'hui de tout, mais il faudrait peut-être rajouter un degré supplémentaire, c'est-à-dire trouver une forme plus originale pour ne pas vexer les gens qui aujourd'hui s'expriment beaucoup.
Et voici la famille en plomb, avec votre présentateur favori, Patrick Rouit.
Allez, on y va, citez-moi un juron.
Ah bon ?
Tu vois, je suis pas clair, là ? Un juron.
Pas Dieu.
C'est pas un Dieu, allons-y. Ah, perdu. On passe à l'autre tâche, là. Allez, un juron.
Charles-Henri, flûte !
Vous allez me lâcher pour une fois, bordel de merde !
Bordel de merde, allez, pourquoi pas, et allons-y.
Mais c'est pas fini.
Alors, Charles-Henri, je te permets pas de me traiter comme ça devant les enfants.
Je fais ce que je veux, espèce de poufiasse.
Les sketchs des Inconnus ressemblent à de petits films, drôles, parodiques, satiriques. C'est le cas aussi chez un autre groupe d'humoristes de ces années 80, Les Nuls. Il y a un décor, les humoristes sont également des comédiens, ils sont habillés ou déguisés en fonction du personnage qu'ils vont incarner. Tout est mis en scène.
Aujourd'hui, dans Cinéma Cinéma, Henri Papier reçoit Daniel Toscan s'est planté.
Daniel, on poursuit maintenant avec votre deuxième choix. La réalisatrice, on la connaît, c'est Mylénie de Guinalou. Et elle nous revient avec le troisième volet de son triptyque Amour, déréliction et doutage. Alors doutage, on est en droit là de se poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est vrai que ça peut paraître étonnifiant au départ. Alors, le doutage, c'est simple. C'est le doute et le chantage. Et c'est donc le doutage. Enfin, c'est un mot qui est inventé, c'est une barbarité, bien sûr. Enfin, je serais tout à fait bouleversif.
Mais est-ce qu'au bout de deux heures, ce n'est pas un petit peu emmerdifiant sur les bords?
Non, pas du tout. Ce qui est scandalisatoire, scandalifiant, c'est, il faut le savoir, oui. C'est que son dernier film des réductions est resté deux heures à l'affiche. Le film en faisant sept, vous voyez que c'est vraiment une erreur.
Oui, et puis aussi, il faut dire qu'il avait été occulté par la sortie de L'Ours du Grand Bleu, de L'Ours, le Grand Bleu. C'est des films qui ont très bien marché.
Ah, mais je ne connais pas.
Oui.
Excusez-moi.
Alors maintenant.
Je suis confus ici.
On n'a pas choisi vraiment de faire les choses. On est allé vers ce qui nous faisait rire. C'est aussi bête que ça.
Bernard Campan, humoriste et comédien.
C'est l'avantage d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort une connerie. Si ça fait rire les deux autres, bah, ça décuple les forces. Donc voilà, si moi je me mettais une moustache, Didier et Pascal étaient morts de rire. Bah, voilà, donc, le déguisement, tout. On a toujours essayé de vérifier si ça marchait sur nous. Quoi. Donc il n'y a pas eu de calcul. Ça a été ce qui venait, notre univers à chacun, que les deux autres autorisaient. C'était ça le groupe des Inconnus. Il n'y a pas de choix vraiment. Et on va aller dans cette direction ou celle-là? Non, je pense pas.
L'héritage des années 80, pour moi, le plus fort, c'est l'aspect comédie, l'aspect comédien, l'aspect acting. Moi, quand je vais voir un spectacle, je suis vraiment ravi de voir sur scène des acteurs qui me font rire, plus que des humoristes. Moi, je pense que les Inconnus, on se considère plus comme des acteurs qui faisons rire que comme des humoristes. Tout le monde dit « Ah, vous êtes un humoriste ». Je dis « Non, je suis un acteur ». Moi, faire un spectacle tout seul, je l'ai déjà fait, bien sûr, mais j'interprète des personnages. Je suis incapable de raconter une histoire drôle dans une assemblée au sein de ma famille. Incapable. Il faut que j'interprète un personnage. L'héritage des inconnus, ou l'héritage des humoristes des années 80, c'est plutôt ça. Quand on voit Bedos, DeVos, tous ces gens-là, bah, ils interprétaient des personnages pour éditer ce qu'ils avaient à dire. Là où on pourrait dire qu'on s'éloigne des années 80, c'est que ce qu'on a perdu, c'est l'esprit de troupe. Aujourd'hui, c'est beaucoup l'individualité qui prime. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher, évidemment. Voilà, on est tout seul, un micro, face au public, et puis il n'y a pas de décor. Voilà, on fait du stand-up pendant 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Il n'y a même pas besoin même de beaucoup de matériel technique pour s'exhiber sur scène. Donc c'est un des avantages, ou pas, des années 2000, presque 3000 bientôt. Non, moi, ce qui me manque, c'est l'aspect acting. Et d'ailleurs, on le voit. Ceux qui font de l'humour aujourd'hui, ils font un peu de cinéma, mais ils restent toujours eux-mêmes. Si on leur demande de jouer un homosexuel du 18e, je pense que les trois quarts seraient incapables. Ils n'ont pas la formation d'acteur.
Durant ces années, la censure était peut-être un peu moins importante qu'actuellement.
De mémoire, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des retours des personnes dans lesquelles on parodiait les sketchs. Notamment des flics, des chasseurs, des publicitaires. Le seul retour qu'on a eu, c'est du ministère de l'économie à Bercy, qui avait fait une parodie des vampires, les Raptous. Et dans la foulée, je pense qu'on a eu tous des contrôles fiscaux. Donc je crois que c'est le seul retour, voilà, mais c'était sympathique. Ça prouve que voilà, on a... En fait, plus il y a des retours, plus ça veut dire qu'on met le doigt là où il faut, quoi. Quand la vérité n'ose pas s'habiller toute nue, ce qui la revêt, c'est l'humour, finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'humour permet beaucoup de choses. Puis de toute façon, comme disait Alphonse Allais, faut pas se prendre au sérieux parce qu'on va tous mourir un jour. On est tous à la même enseigne.
Nous sommes le sac qu'on crasse et qu'on balasse. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu bailles, pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout.
Je t'offre un pot. Eh oui, un pot. Un pot fisco, un pot loco, un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier, un pot rentier. Sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thune. Un pot sécheresse, un pot richesse, un pot nouveau, un pot rétro, un pot recto, un pot verso, un pot sur le revenu, un pot sur les revenants.
C'est un peu une espèce de règle de ce métier quand on travaille surtout à la radio où il faut être productif quand même tous les jours.
Marius Colucci.
On fait un peu feu de tout bois et on peut rire de tout. Ce qui compte, c'est que ce soit drôle. Ça, c'est la règle du show business, du musical et même avant du théâtre et aujourd'hui du web, vous pouvez dire ce que vous voulez du moment que c'est drôle et pertinent. Si vous êtes juste bête et bête, ça ne passera pas la rampe. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, on peut rire d'à peu près tout, et je pense que Coluche a rigolé d'à peu près tout, surtout que c'était une époque, encore une fois, qui était assez différente. Hein. Il faut bien voir que la France et l'Europe, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de vieux, il y a plus que des jeunes, c'est même le baby boom, et tous ces jeunes, bah, ils ont 20-25 ans quand arrivent les années 70, et le monde est vraiment à eux, le monde est vraiment ouvert, et on peut vraiment faire un monde nouveau, parce que bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vieux à cette époque-là. Autant nous, on est une génération où il y a beaucoup de vieux au-dessus de nous, mais eux, bah, c'était l'inverse. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ont émergé, et qui ont fait vraiment le monde qu'ils voulaient. Alors, il y a les hippies qui ont essayé de rêver le monde, puis finalement, bah, la crise économique a complètement fauché ce rêve-là. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait plein de trucs qu'on pouvait brocarder, parce que c'était le monde d'avant, un peu. Il y a l'avant et l'après Beatles au XXe siècle, un petit peu, avec ces deux guerres mondiales, du coup, et ce baby-boom. Ça a créé ça. Donc, il y avait plein de trucs qu'on pouvait changer, qui allaient changer. Et puis, bon, bah, de toute manière, ça, c'est aussi une règle sociétale, hein, c'est qu'à chaque génération, forcément, les jeunes bousculent la génération d'avant, et comme ils sont nés dedans, bah, ils voient bien les trucs qui sont ridicules dans cette génération-là, et ils peuvent les croquer plus facilement.
Moi, le sida, j'ai remarqué un truc, ça s'attrape surtout dans les journaux. Sida, S-I-D-A, sauvagement introduit dans l'anus. Ça s'attrape surtout dans les journaux, hein, ça fait les gros titres. Et comme dit mon docteur, hein, le sida, ça peut s'attraper aussi sur les toilettes, hein. Enfin, c'est pas là que c'est le plus confortable. Alors voilà une nouvelle psychose. Les pédés donnent le sida. Et ben moi, je vais te dire, les femmes donnent le cancer. Voilà. Quelle connerie.
Le sida, c'est le fléau de ces années 80. La maladie emporte Thierry Le Luron en 1986, mais on ne dit pas tout de suite qu'il est décédé de cette maladie. Parce qu'elle était considérée comme un mal honteux, beaucoup de personnalités publiques ne dévoilent pas véritablement le mal qui les ronge. Le premier à déclarer publiquement qu'il est atteint du sida, c'est l'acteur américain Rock Hudson. Cela se passe lors d'une conférence de presse qui est donnée le 25 juillet 1985, alors que l'acteur est hospitalisé à Paris.
Il faut croire qu'aujourd'hui, le sida fait davantage peur que le cancer. On avait dit pudiquement dans l'entourage de Rock Hudson, après son hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly, qu'il souffrait d'un cancer du foie inopérable. Il y a quelques années, on n'aurait jamais osé le dire. Cette fois, on a donné cette explication pour cacher qu'en fait, l'acteur américain souffre, et cela depuis apparemment un an, d'un sida, maladie jusqu'à présent mortelle, pratiquement à 100%.
Parmi les personnalités emportées par la maladie dans les années 80, on peut citer les pianistes et clavecinistes Yuri Gorov, Scott Ross, il y a également Bruno Carrette ou encore ce chanteur extravagant, Klaus Nomi, qui sera l'une des premières célébrités à être fauchée par le sida. C'est en 1986 que le sida est baptisé VIH, virus d'immunodéficience humaine. Depuis son apparition, le sida a emporté plus de 31 millions de personnes. Il y a une date importante, c'est celle du 5 juin 1981, où l'organisme américain de surveillance et de prévention des maladies rapporte 5 cas d'une infection pulmonaire grave chez des hommes homosexuels à Los Angeles. Le même organisme rapporte également des infections opportunistes qu'on retrouve chez des consommateurs de drogues injectables, chez des personnes hémophiles qui ont eu recours à des transfusions sanguines ou encore chez des Haïtiens qui vivent aux États-Unis. On parle alors de la maladie des 4 H, homosexuels, héroïnomanes, hémophiles et haïtiens.
C'est intéressant parce qu'au début, évidemment, il y avait une interrogation sur quelle était l'origine de cette immunodéficience.
Nathan Klumek, professeur et chef de service honoraire au CHU Saint-Pierre, spécialiste des maladies infectieuses.
Et on n'a pas tout de suite pensé à un virus. Comme le premier groupe qui était atteint, c'était les homosexuels, on était parti sur des pistes. Est-ce que ce n'est pas l'utilisation des poppers qui sont ces excitants? Est-ce que ce n'est pas leur mode de vie? Donc on était parti sur des choses qui étaient pas des virus. Et puis on s'est intéressé aux virus qui étaient plus fréquents chez les homosexuels et qui étaient connus, comme le cytomégalovirus ou le virus herpétique. Et très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir avec le cytomégalovirus et l'herpétique. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher un virus qui serait un nouveau virus, en faisant référence aussi au fait qu'il existait de l'immunodéficience provoquée par des virus chez des animaux. Et donc on a fait le parallèle avec certains animaux et on s'est mis à chercher ce virus. À l'époque, il y avait deux courants. Il y avait un courant de liberté sexuelle qui était très manifeste aux États-Unis au niveau de groupes des homosexuels, puisqu'ils avaient leur propre quartier à San Francisco, hein, le fameux quartier Castro. Il y avait une revendication de cette liberté sexuelle qui suivait les années des années 70, hein, avec toutes les formes de mouvements de libération de la femme, des Noirs aux États-Unis. Et donc il y avait un mouvement dans ce sens-là. Et il y avait même des badges, hein, où en prenant cette liberté sexuelle, il était marqué « I am herpes free », je suis libre d'herpès, parce que à ce moment-là, c'était l'herpès qui était la maladie sexuelle qui était transmissible. Et donc il y avait ce mouvement-là, une revendication avec ce qui À l'évidence, c'était des excès, puisque il y avait des bars où il y avait des backrooms, c'est-à-dire des chambres dans lesquelles on pouvait aller s'isoler avec un parfait inconnu et avoir un rapport sexuel furtif, sans aucune précaution. Et c'était revendiqué. Et donc ça, c'est la revendication. Et c'est pour ça qu'au début, quand on a parlé de maladies plus fréquentes chez les homosexuels, il y a eu une réaction très, très négative des groupes des homosexuels en disant « on nous stigmatise, on est en train d'essayer de nous contrôler, pourquoi nous ?» etc. Ils n'ont pas accepté l'idée que les pratiques étaient à risque. Et à côté de ça, il y avait un mouvement conservateur, c'est les années Reagan, il y avait un mouvement conservateur qui disait tous ces gens-là, c'est quelque part, entre guillemets, des tarés, ils ont ce qu'ils méritent, qu'est-ce que c'est que ça, voilà.
Les premiers cas de sida, et qu'on n'appelle pas encore sida...
Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis.
On les détecte dans la communauté homosexuelle de San Francisco. Au début des années 80, on parle de cancer des homosexuels. On voit des images dans la presse, dans les prisons, de gardiens habillés en scaphandrier pour apporter les repas des malades. Et c'est quelque chose qui fait très très peur, très vite, parce que c'est une maladie horrible et dont les gens meurent, les victimes meurent rapidement, mais qui en même temps, dans un premier temps, paraît cantonné à la communauté homosexuelle, et sachant que les homosexuels sont accusés d'immoralité et de toutes sortes de péchés contre la foi religieuse. Et Reagan, pendant très longtemps, au fond, se montre indifférent. Il faudra longtemps pour que celui qui a le poste de Surgeon General, qui est chargé de la santé aux États-Unis, l'équivalent d'un ministre de la Santé, s'empare finalement de ce sujet.
Et donc il y avait ces deux antagonismes qui fait qu'au début, il y a eu un déni de la part des autorités politiques, un refus de reconnaître, et pour les mouvements extrémistes politiques, je pense en France au Front National par exemple, il y a eu des mots très durs de la part de Le Pen, qui parlait d'ailleurs des sidaïques, qu'il fallait enfermer dans des sidatoriums. Donc il y avait ce double mouvement.
Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, d'accord, avec des règles d'hygiène strictes.
La maladie est prise au sérieux, d'autant plus qu'elle se répand très vite. Au début, on parlait de 10 cas, 20 cas. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler du syndrome d'immunodéficience, parce qu'on ne parlait pas encore du virus, évidemment. C'était en 83. En 82, j'étais à un congrès de maladies infectieuses générales à Chicago, et on parlait de quoi ? On parlait du sarcome de Kaposi chez les homosexuels. Et le sarcome de Kaposi, c'était la tumeur qui était provoquée par l'immunodéficience, qui donnait cette tache rouge sur le visage, les déformations. On a vu des photos très spectaculaires de ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tache qui arrive chez les homosexuels ? Et là, à ce moment-là, on présentait 30 cas. C'était les 30 premiers cas. Et quand je suis revenu en Belgique, j'ai oublié cette histoire. Et ce n'est que quelques mois plus tard, quand j'étais en contact d'une patiente africaine qui présentait des choses que personne ne comprenait, que quelque part, il y a une association qui s'est faite en « Tiens, mais tu as vu quelque chose aux États-Unis qui ressemble à ce que cette patiente africaine... » Oui, mais aux États-Unis, c'était des homosexuels. Ici, c'est une africaine. Est-ce que c'est la même chose ? Et c'est comme ça que la piste africaine a été découverte, c'est en mettant en relation ça. Donc au début, c'était quelques cas. Mais dès que ça a commencé à s'étendre, évidemment que tout le monde s'est précipité, parce que c'était dramatique. Les gens mouraient, ils mouraient dans des complications dramatiques, et c'était tous des gens jeunes. Donc très vite, les gens se sont investis pour essayer d'abord de trouver l'origine, et ensuite d'essayer de trouver des traitements. Après, les homosexuels, il y a eu des cas à Haïti. Mais Haïti, on s'est dit, les Américains ont dit Haïti, c'est marginal. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait les toxicomanes, parce que ça se transmet par le sang. Et dans les toxicomanes, il y avait des hommes et des femmes. Mais la piste hétérosexuelle, au début aux États-Unis, a été sous-estimée. Il y avait vraiment un focus sur les homosexuels parce que c'était le groupe où ça faisait le plus de dégâts. Et au fond, la piste hétérosexuelle a été reprise, et on s'est rendu compte in fine que c'était la plus importante, à partir des cas africains. Et au début, c'était très contesté. On a dit, oui, mais enfin, les Africains, c'est pas ça. Les Africains, c'est la malnutrition. Les Africains, c'est les maladies parasitaires. Donc, on n'imaginait pas que ça partait d'Afrique. Et les Africains eux-mêmes disaient, vous nous stigmatisez. C'est encore une fois le colonialisme qui dit que la faute est aux Africains. Donc, au début, c'était tout à fait contesté. Et puis, très rapidement, quand on a vu le pourcentage de femmes qui étaient infectées, et quand on a isolé le virus, on s'est rendu compte qu'il se transmettait par voie sexuelle, et que c'était pas uniquement le rapport anal qui était la transmission, qu'un rapport hétérosexuel simple transmettait le virus.
On n'a pas tout de suite parlé de sida. On parlait d'abord de GRID, Gay Related Immunodeficiency Disease. Ensuite, on a parlé de sida, syndrome d'immunodéficience acquise. Il faut attendre le 20 mai 1983 pour que le virus soit décrit pour la première fois, et c'était dans la revue Science. Cet article, c'est le fruit des observations microscopiques du 4 février 1983 qui ont été faites à l'Institut Pasteur à Paris par les chercheurs Françoise Barré-Sinou aussi et Jean-Claude Sherman, sous la direction de Luc Montagnier. Ils ont alors isolé un nouveau virus qu'ils ont baptisé LAV.
C'est une saga qui a eu beaucoup de controverses et qui a été l'objet de discussions, de contestations. Il y avait deux équipes qui étaient en compétition. Il y avait l'équipe de l'Institut Pasteur, avec Françoise Barré-Sénouzi, qui travaillait sur les rétrovirus à l'Institut Pasteur, dont le patron était Luc Montagnier. Et il y avait une équipe aux États-Unis, au NIH, avec Bob Gallo, qui travaillait avec Fauci, et les deux équipes étaient en train de chercher ce virus. Et donc, ils échangeaient aussi des prélèvements, et donc, Françoise Barré-Sénouzi avait trouvé quelque chose dans des cellules lymphocytaires, et elle doutait, et elle a envoyé le prélèvement à Bob Gallo. Et puis, elle a mis en évidence ce virus, qu'elle d'ailleurs, elle a appelé au début le LAV, parce qu'il était isolé dans les ganglions. Et donc, elle l'a envoyé à Bob Gallo. Et les publications sont sorties avec un petit peu de décalage, mais les Français les premiers. Et puis les Américains ont très rapidement mis au point un test de diagnostic, avant les Français, et ils ont prétendu qu'ils avaient découvert le virus et le test diagnostique. Et donc il y a eu une bagarre, mais vraiment une bagarre, dans laquelle même les présidents sont intervenus, parce qu'il y avait des droits sur les tests, ça rapportait des fortunes ces tests, donc il fallait savoir qui touchait les prébandes, ceci, etc. Et donc voilà comment au début il y a eu cette controverse qui a été conclue, je veux dire le prix Nobel qui a été donné à Françoise Barré-Sénouzi et à Montagnier montre très clairement que c'est les Français qui l'ont découvert en premier et que le virus isolé par les Américains était en fait le virus que les Français lui avaient envoyé. Donc c'était pas un virus que eux avaient trouvé, ils l'avaient isolé à partir du virus français. Maintenant, tout ça, c'est de la vieille histoire. Mais donc, Bob Gallo, qui était un biologiste de... En fait, Bob Gallo, c'est lui qui avait découvert l'enzyme, la reverse transcriptase, qui permettait de comprendre, et l'interleukine 2 aussi a été découverte, c'était une hormone qui permettait de mettre en culture les lymphocytes. Donc, il y avait énormément de prérequis de recherche qui étaient aux États-Unis. Donc, il a été extraordinairement frustré que malgré tout ce qu'il avait fait avant, c'est les Français qui l'avaient découvert en premier. Donc il y a eu cette bagarre, mais le prix Nobel a très clairement dit que c'était les Français.
C'est le 31 mars 1987 qu'un accord est signé entre la France et les États-Unis pour mettre fin au contentieux sur l'antériorité de la découverte du VIH, qui sera complété par un accord avec l'Institut Pasteur en 1994.
Ça faisait des années qu'on parlait d'eux pour le prix Nobel de médecine. Les Français Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi viennent d'être couronnés par l'Académie suédoise pour leurs travaux sur la découverte du virus du sida.
Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier recevront en 2008 le prix Nobel de médecine.
À vrai dire, après la confirmation par les États-Unis de ce virus...
Françoise Barré-Sinoussi.
Les personnes atteintes venaient à Pasteur nous voir.
Et pourquoi ?
Non pas pour voir un médecin, mais pour voir un chercheur, justement, pour nous poser des questions. Pour nous poser des questions sur ce virus, qu'est-ce que c'était que ce virus, comment il fonctionnait dans leur corps, comment il détruisait leur défense immunitaire, qu'est-ce qu'on allait faire, nous, les chercheurs, pour trouver une solution, pour les traiter. Ils voyaient en nous, les chercheurs, cet espoir, peut-être, de continuer à vivre. Et c'était une période extrêmement, extrêmement dure, parce que il y avait un combat en nous entre l'être humain face à un être humain qui veut tout simplement vivre et le chercheur qui au fond de lui-même sait très bien que tout ça va prendre un certain temps et que la personne qu'on a en face de nous malheureusement n'aura pas le temps d'attendre. Je me souviens avoir rencontré des personnes avec le VIH qui avaient des propos suicidaires et qui m'inquiétaient d'ailleurs beaucoup parce que bon, moi, n'étant pas médecin, n'étant pas psychologue, je me disais, pourvu qu'en sortant de Pasteur, ils n'aillent pas se tuer. C'était franchement des choses qui nous faisaient très peur aussi, de voir ces patients prêts à tout pour vivre, mais aussi pour en finir. Donc, c'est une période extrêmement, extrêmement difficile et douloureuse, je dois dire.
Il n'y avait rien. Le seul traitement que nous avions, c'était le traitement des complications.
Nathan Klumek.
Qu'est-ce qu'il faisait comme complication? Il faisait des abcès cérébraux à la toxoplasmose. Et ces abcès cérébraux conduisent à la mort. Donc, on devait traiter la toxoplasmose. On devait traiter les pneumonies à pneumocystis. C'est aussi ce parasite rare qui a provoqué les premières pneumonies chez les homosexuels. Il y a d'autres maladies, à cytomégalovirus, à herpès, à tuberculose. Donc, en fait, comme le système immunitaire, comme je le dis, est paralysé, il est à moitié détruit, c'est open table, hein, je veux dire, les frontières sont ouvertes, tous les opportunistes, ils portent bien leur nom, tous les germes opportunistes rentrent et se servent. On traitait le cytomégalovirus, mais c'est la toxoplasme qui sortait. On traitait le toxoplasme, c'était l'herpès qui sortait. Et donc les patients rentraient à partir du moment où ils avaient une immunodéficience, c'est-à-dire que leur système était tout à fait déficient. C'était entre 3 et 6 mois et ils mouraient.
En 1987, le premier traitement antirétroviral, l'AZT, est autorisé aux États-Unis. Mais il est coûteux et ses effets secondaires sont nombreux. Le 26 octobre de cette même année 87, l'ONU vote une résolution visant à unir tous les pays membres dans la lutte contre le sida.
Les patients étaient, quelque part, il y avait la peur de la stigmatisation, il y avait la peur des réactions, parce qu'il y a eu quand même des réactions très violentes de la part de l'Église, qui condamnait ces pratiques immorales, de la part de certains employeurs qui se disaient on ne veut pas garder dans notre service des gens qui sont peut-être contagieux. Je veux dire, la contagion du VIH, encore une fois, c'est intéressant à ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'est une contagion liée à un rapport sexuel, hein. Mais il y avait des tas de fantasmes. Hein. On disait, oui, mais est-ce qu'on peut pas être infecté en buvant dans un verre? Moi, j'avais des gens qui n'étaient pas des patients qui venaient me voir en me disant, voilà, dans le bus, j'ai mis ma main sur une barre, mais il y avait quelqu'un qui avait un drôle d'air, qui a vu sa main aussi, et nos mains se sont touchées. Est-ce que s'il a le VIH, je pouvais l'attraper aussi? Donc, il y avait tous ces fantasmes de transmission. Et il y a eu un moment où on disait que c'était transmis par les moustiques. Donc, il y avait tous ces fantasmes de transmission, alors qu'en fait, il y a trois modes de transmission. C'est le contact sexuel, qu'il soit hétéro ou homo. C'est de la mère à l'enfant. Et c'est par échange de seringues ou échange de produits sanguins chez les hémophiles.
Et quand vous avez été sûr du diagnostic?
Oui.
Comment vous avez réagi en vous-même?
La panique. Mes parents, mes amis ont su que j'avais le sida très rapidement. Et même ma propre mère n'a pas osé me toucher pendant, ni m'embrasser, pendant trois semaines et un mois. Personne, ni mon ami me touchait du bout du doigt comme ça sur le front, voir bonhomme.
Il y a alors eu des associations d'aide aux malades, en partie constituées par des personnes atteintes du sida. Et cela a été une nouveauté en médecine, dans le sens où ces personnes malades donnaient leur retour sur les stratégies thérapeutiques et qu'elles participaient au discours sur les protocoles de recherche. Aujourd'hui, les associations de patients existent pour toute maladie. Mais à l'époque, c'était nouveau. Et il y a eu d'autres associations qui se sont créées pour lutter contre le sida. Cela a commencé aux États-Unis. En juin 1987, Larry Kramer crée ACT UP. I walk the avenue till my legs feel like stone. I heard the
voices of friends vanished and gone. Alors Ronald Reagan est connu ou dépeint pour son homophobie.
Thomas Negaroff, journaliste et historien, spécialiste des États-Unis.
Dès le départ, le sida est présenté comme une épidémie qui touche essentiellement les homosexuels. Pour lui, c'est le signe quasiment d'une punition, d'un châtiment divin. Et il traite un peu, vraiment sans beaucoup d'intérêt, le sida, la propagation, les milliers de morts, les centaines de milliers de morts, tout ça l'intéresse pas beaucoup. Et d'ailleurs, c'est en réaction à cette absence de réaction politique que une institution comme ACT UP va être créée aux États-Unis d'abord par Larry Kramer. Hein. C'est vraiment voyant le politique n'absolument pas se saisir de ce drame en train de naître, que les malades et les amis des malades et les soutiens des malades vont dire bah, on ne peut que compter sur nous-mêmes. Et c'est l'un des grands drames peut-être de l'époque, c'est de ne pas avoir de la part de l'administration saisi pour des raisons en plus morales l'ampleur de la gravité de ce qui est en train de se passer.
ACT UP Paris se crée le 9 juin 1989 par Pascal Loubet, Luc Coulavin et Didier Lestrade.
Que moi, je me rappelle qu'à chaque réunion, j'étais complètement effrayé. J'étais persuadé qu'il y avait une folle qui allait se couper les veines devant tout le monde, qu'il y avait quelqu'un qui allait taper sur le mur. Enfin, on attirait des fous à l'époque. Hein. Faut pas oublier que c'était 89. Les gens n'étaient pas aussi érudits et articulés que maintenant. Donc les gens, ils arrivaient et puis se jetaient comme ça. Ils disaient « Ah, je veux !» Et il fallait gentiment leur dire « Tu sais, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, mais on peut en parler entre nous. » Enfin, c'était vraiment... Je crois que les gens étaient tellement désespérés à l'époque, on en rit maintenant, mais les gens étaient tellement désespérés à l'époque que quand on organise des réunions où n'importe qui peut venir, puisque c'est la base d'ACT UP, hein, et on ne doit pas passer par un filtre, on est confronté à plein de problèmes qu'on peut même pas imaginer quand on crée l'association. C'est chaque réunion, il y a une tuile qui tombe sur la tête, et c'était très éprouvant. C'est que quand non seulement il y avait les réunions hebdomadaires, mais il y avait les réunions de travail du comité de coordination, il y avait les réunions de commission, c'était, il y avait les apps, les manifestations, c'était du stress concentré. Non, mais je crois que ce qui était drôle, ce qui était très drôle, parce que c'est au départ ACT UP, quand même, c'était un groupe de PD hystérique quand même, et que je crois que très vite on a réalisé que même ce qu'on faisait, c'était très sérieux, que c'était lié à la mort, c'était lié à la souffrance, la maladie et tout ça. On était obligé de réaliser que de temps en temps on pétait un câble et qu'on était drôle. Et c'est ça le côté drôle d'ACT UP par rapport aux autres associations, c'est que il y a eu tout de suite une sorte de décalage, une sorte de façon de se voir un peu comme si on était avec un angle de vision un peu décalé. Et je crois que c'est ça qui était drôle, c'est qu'on n'arrivait pas, même dans des moments qui étaient vraiment dramatiques, 5 minutes après, il pouvait y avoir une blague qui allait faire retourner la situation. Et c'est ça qui donnait aussi de l'espoir et de la confiance aux gens. C'est-à-dire que si les militants se retrouvaient dans un milieu dramatique, de la première minute à la dernière, je crois qu'ils n'auraient pas tenu.
Et alors ACT UP a fait des actions spectaculaires comme prendre du sang de bœuf. Et je me rappelle à un congrès aux États-Unis, ils avaient été dans une des salles où il y avait une représentation d'une firme pharmaceutique. Ils ont été jetés ce sang sur la... Et donc la presse était là et tout le monde parlait de ça. Donc voilà, ils sont aussi enchaînés à des grilles pour protester. Ils ont radicalisé pour faire bouger les choses. Et ça a marché, parce qu'on peut dire que quand même, il y a eu des mouvements sérieux, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça a été complètement une institution hein, dans ACT UP. C'est-à-dire qu'il y a des gens très brillants qui ont commencé à expliquer à chaque militant qu'il ne fallait pas parler aux médias, il fallait parler à travers les médias.
Didier Lestrade, cofondateur d'ACT UP Paris.
C'est-à-dire qu'il ne fallait pas donner ce que les médias attendent de nous. Il faut se parler directement pour les personnes qui regardent la télé ou qui écoutent la radio. À l'époque, c'était tellement révolutionnaire. C'est de voir qu'une association comme ça, militante, très agressive dans ses modes d'action, dans ses manifestations et tout ça, avait quelque chose de très calculé dans l'approche vis-à-vis des médias. Et je me suis dit, on va vendre le sida comme si c'était un produit. Et ça, j'ai trouvé ça excitant parce que je me suis dit, c'est une façon de prendre contrôle sur la maladie, en fait. Si on sait bien communiquer sur la maladie, ça veut dire qu'on la comprend bien, ça veut dire qu'on sait où on va. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est le côté, j'étais journaliste, je voyais une façon de faire du journalisme mieux que je le faisais moi-même. Et dans un sujet qui était très compliqué, comme le sida, c'était très excitant.
Bonsoir à tous. Depuis 3 jours maintenant, les Serbes vivent dans la rue. Dans cette
sida, parlons-en.
Silence égal mort.
Silence égal mort.
Parlons du sida.
Le sida, la RTB.
On parlera du sida un jour, mais pour l'instant, vous allez me laisser travailler, s'il vous plaît.
Oui.
Merci.
Mais en fait, on n'est pas beaucoup passait à la télé. Hein. C'était nos actions qui passaient à la télé. C'était tout ce côté un peu guerrier, violent, d'Act Up, d'investir n'importe où, dans des bureaux, dans des laboratoires pharmaceutiques ou dans des médias et tout ça pour crier. Je crois que c'était ça qui intéressait les médias. C'était pas vraiment nous en tant que personnes et tout ça.
Actuellement, le sida ne se guérit toujours pas, mais grâce aux avancées médicales, il ne se transmet plus de la mère à l'enfant, ni d'un partenaire à l'autre, à condition, bien sûr, que le traitement soit régulièrement pris. Dans le prochain épisode, nous serons en 1987, lorsque Gorbatchev et Reagan ont signé le traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui a mis un point final à la crise des euromissiles. La décennie sera également le théâtre d'accidents chimiques et nucléaires majeurs, comme Bhopal ou encore Tchernobyl, et c'est à ce moment-là que la communauté internationale va prendre conscience de l'importance de l'écologie.